Un lore, c'est l'univers d'une œuvre de fiction, en général. Donc ça va être le lore du Seigneur des Anneaux, c'est le monde du Seigneur des Anneaux, avec tout ce que ça comporte, les créatures, la géographie, etc.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions et aujourd'hui, sans aucune arrière-pensée. Sans par exemple imaginer un seul instant, nous entendant parler jeux vidéo que le studio Rockstar Games nous envoie en exclusivité une version bêta de GTA 6. On n'en peut plus des reports. Non, c'est vraiment pour la beauté du geste et l'amour du gai savoir, même si notre adresse est 116 avenue du président Kennedy, 75016 Paris, qu'on va zoomer aujourd'hui sur un mot que vous ne connaissez si vous êtes gamer, évidemment. Mais probablement pas si vous n'avez pas touché une console depuis 2005. Zoom sur le lore. Attention, ceci n'est pas la musique que Cyril demande pour ses massages profonds du mercredi chez Madame Tenten, salon bien connu de l'avenue de Versailles, mais le thème du jeu vidéo Zelda, un jeu au lore très poussé, puisque le lore c'est en fait l'univers, inventé spécialement pour une fiction, en l'occurrence un jeu vidéo, pour lui donner du relief, de la complexité et du mystère. En un mot, le lore, c'est l'histoire et le décor d'un jeu vidéo. Et ici, je le redis, bien fort pour que Naughty Dog, Arkane, Blizzard et Ubisoft m'entendent, on adore les jeux vidéo, même s'ils ont beaucoup changé depuis mon premier jeu vidéo. Nous sommes le 24 décembre 1988. Le Père Noël ayant été généreux, en même temps normal, c'est quand même mon père, mes petits doigts potelés tripotent pour la première fois la manette de la Nintendo 1, la NES. Pour Cyril, qui lui a grandi avec Pong, le jeu de tennis constitué de 2 barres noires qu'il faut déplacer horizontalement pour faire rebondir un gros pixel symbolisant la balle, c'est une révolution. Comme il était à l'époque déjà adolescent, il aurait pu d'ailleurs se dire que les jeux vidéo c'était l'avenir et décider de devenir concepteur de jeux. Non. Déjà doté d'un 6e sens pour le business, il avait choisi de tout miser sur le secteur des vidéoclubs. La VHS, c'est l'avenir, avait-il lancé à ses parents en ce Noël 88. Bref, que de chemin parcouru entre Super Mario Bros. 1 et le récent et merveilleux Assassin's Creed Shadow dans le Japon médiéval, qu'il faudrait cependant pouvoir comparer avec son rival, le sublime Ghost of Yotei, dont il faudrait que je teste le gameplay pour pouvoir les départager. En tout cas, les progrès ne sont donc pas que graphiques, ils sont surtout liés à la complexité de l'univers que nous proposent désormais ces jeux. Alors, qui forge les lores? Qu'est-ce qui fait un bon lore? L'or est-il vraiment le meilleur café du monde? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Présentateur Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Je dis à tous les éditeurs de jeux, n'envoyez rien à Mathieu. Mathieu n'a pas le droit de jouer chez lui. Madame Noël lui interdit. Donc, inutile de vous envoyer quelque chose. Envoyez à Manon Mariani plutôt.
Pas du tout. Mais non, mais Manon, vous n'avez pas le temps. Vous regardez déjà trop de séries, vous. Bonjour, Jeanne Rousseau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes conceptrice, graphiste et scénariste de jeux vidéo. Sur quel jeu vous avez travaillé, par exemple?
Gridfall, qui est peut-être le plus connu. Steel Rising aussi, plus récemment. Ah, okay. Donc voilà, un certain nombre de jeux.
Des jeux en vogue. Vous êtes spécialiste.
Je suis plus graphiste depuis longtemps, cela dit.
Ah, vous êtes plus graphiste depuis longtemps. Vous êtes essentiellement scénariste aujourd'hui.
Oui, je suis essentiellement scénariste et directrice de studio.
Vous êtes spécialiste des RPG, les role-playing games. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit parce que c'est important pour comprendre notre sujet du jour. Vous êtes aussi présidente de l'association Bourse Jeux Vidéo qui vient en aide aux étudiants en jeux vidéo et qui les accompagne tout au long de leurs études. Même si Cyril est déçu, vous n'avez pas bossé sur Pac-Man, on est ravis de vous accueillir. Jamais, c'est le problème. Vous allez donc nous expliquer comment on bâtit un lore, juste le temps de vous présenter 2 fiefés gamers. Enfin, une gameuse active et un gamer frustré. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tout le monde.
Pourquoi frustré?
À vos côtés, Jeanne, vu le temps qu'elle passe sur sa flambant neuve PS5, notamment sur le dernier Assassin's Creed, désinguant des ninjas qui découvrent effarés la soif de sang de la Marianoche.
C'est si bien.
Vu le temps qu'elle passe aussi sur Netflix à binge-watcher toutes les séries du moment, tout en se replongeant en parallèle dans la totalité des 6 saisons de Game of Thrones, les journées ne faisant que 24 heures, même sous MD, un rapide calcul nous permet de conclure que sa vie sexuelle est au point mort.
Mais non. Game of Thrones peut être un très bon aphrodisiaque, sachez-le.
Ah. Notamment les scènes avec Pedro Pascal.
Exactement.
C'est sympa chez
Marianne.
Oh, je me permets de rebondir.
Game of Thrones.
Manon. Oh. Entre 2 parties d'Assassin's Creed, vous envoyez quand même une petite pièce jointe.
Et aujourd'hui, une série, justement, alors pas Game of Thrones, sa cinquième saison arrive la semaine prochaine et elle est très attendue parce que c'est la dernière.
J'aime pas ces teasings, on sait pas de quoi on parle.
Bah, vous avez pas deviné là? J'en parle tout le temps.
Ah oui. Et oui.
Il y a des enfants,
oui,
c'est dans les années 80.
Et ils ont des bicyclettes. Ah, le retour de Navarro, ça on l'attend. Face à vous, Jeanne, lui, il rêverait d'avoir une PS5. Il l'a même mis dans sa liste au Père Noël cette année. Le problème, c'est que chez les lui, c'est madame qui décide. Et elle a décidé que pour Noël, il aurait un livre. L'année dernière, le Père Noël lui avait apporté la mode pour les nuls. Ça l'avait transformé. Il était passé des Vans au Balenciaga.
Il vous a oublié,
visiblement.
Alors,
comme il n'a pas le droit d'avoir une console à la maison, il cherche à squatter chez les copains qui en ont une. Récemment, il a eu cette phrase bouleversante. Manon, est-ce que tu accepterais que je vienne jouer chez toi à Formula One? Non, avait été évidemment la réponse de Manon.
J'ai dit avec plaisir.
Eh ouais, elle disait, ils ont acheté une.
Vous l'avez fait?
Peut-être même que pour moi.
Ils ont acheté une seconde manette.
Elle s'appelle Quentin, lui, d'ailleurs. Voilà.
Quentin, dites-nous.
Par contre, de la mode pour les nuls, vous avez découvert Carhartt la semaine dernière.
Oula, voilà. Ça clash.
Ça taille, on ne sait pas trop pourquoi.
Méchant.
C'est méchant. On y va.
On pourrait passer votre tenue en revue aussi, si vous voulez, mais malheureusement, ça n'intéresse pas les auditeurs. Quentin, vous êtes allé rencontrer les gens dans la rue, ça, c'est votre spécialité.
Alors, l'or de la Formule 1, par exemple, moi, je l'ai en revanche, celui-ci. Vous n'avez pas de la Formule 1, voilà, l'univers, je l'ai. Je me suis rendu devant une boutique de jeux de rôle, jeux d'apéro, jeux de société, tous ces jeux où Pierre Courade triche et transpire de mauvaise foi. Est-ce que les gens ont des lores de cœur, des préférences? Réponse dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, ces jeux vidéo-là sont passés sous les radars, trop en avance sur leur temps, trop gore ou simplement trop ratés. Le Zoom Zoom Test sera consacré à ces jeux vidéo devenus cultes tellement ils ont fait un bide. Juste avant 17h, jamais de bide pour Harold Barbet, du moins si on parle humour. Après 17h, restez avec nous, une réalisatrice qui fait tourner les plus grands, de Léa Seydoux à Nathalie Portman, en passant par Jodie Foster, sera avec nous. Rebecca Zlotowski vient nous parler de son film qui sort la semaine prochaine. Mais d'abord, Jeanne Rousseau, zoom donc sur le lore. Ce lore, c'est tout simplement l'univers inventé pour un jeu vidéo.
Alors, pour un jeu, oui. Après, on en retrouve aussi dans d'autres types d'œuvres, comme vous l'avez dit, et comme l'ont dit certaines personnes que vous avez interrogées.
Dans la fiction en général.
C'est dans la fiction en général. C'est le monde... Alors, ce n'est pas l'histoire, justement. C'est
le monde autour.
C'est le monde autour. Après, ce monde peut avoir une histoire. Souvent, même, il en a une. Et ça fait partie du travail de l'or, justement, que de la développer.
De la rendre de plus en plus riche pour qu'on oublie qu'on est dans un jeu vidéo, quelque part. Qu'on a l'impression qu'il y a
c'est
une part
de vérité.
C'est
pour rendre les mondes les plus immersifs et crédibles possible, pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse avoir autant de matériel que possible. C'est en général un travail qu'on fait en parallèle, mais souvent en début, malgré tout développement, pour donner autant de matière que possible, non seulement après au reste des équipes qui vont se servir de ce matériel, aussi bien graphiquement que pour la musique, pour tous les éléments du jeu, en fait, mais aussi pour écrire tous les scénarios, parce qu'un jeu vidéo, en général, en contient plus d'un.
Ben oui, c'est ça.
Et du coup, on a une matière comme ça dans laquelle on peut piocher sans arrêt pour aller créer toutes les petites aventures, toutes les petites anecdotes, les événements qu'on va pouvoir croiser au fur et à mesure du jeu.
Il le confessera lui-même, il n'est pas un as du jeu vidéo. Dans sa jeunesse, quand les Azous de Ponto Combo se réunissaient pour passer une batte de soirée, ce n'était pas autour d'une Super Nintendo qui n'existait pas, mais d'un bon vieux flipper au troquet du coin. Cyril Lacarrière, c'est fou, comme l'univers du divertissement a changé depuis l'époque où vous rouliez des gitanes de maïs et d'une seule main pour impressionner Corinne Bouchonou. Et pourtant, vous allez tout nous raconter, les lores, d'où ça sort.
Imaginez, vous traversez un monde en ruine, sans aucune explication, vous croisez un cadavre qui tient une lettre, vous voyez une fresque qui raconte une bataille oubliée, un objet qui porte le nom d'un dieu disparu. Vous êtes dans un jeu vidéo, donc vous jouez, mais mieux encore, vous enquêtez. Malheureusement, difficile de savoir à chaque fois si tout ce que vous voyez sera utile ou pas. Bienvenue dans le lore, tout ce qui n'est pas dit mais que le jeu raconte quand même. Lore, c'est un mot qui vient du vieil anglais, lar, lore, qui voulait dire savoir ou enseignement. C'est de là que vient folk, alors folk F-O-L-C, qui deviendra folk F-O-L-K pour peuple, folklore, qui veut dire l'enseignement des traditions.
Et quand on l'applique aux jeux vidéo, qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, c'est l'art de construire un univers par petites touches, par le biais d'indices. On n'explique pas le monde dans lequel on vous plonge, on vous laisse le deviner. Ici, pas de tuto, mais un puzzle à reconstituer, et ça passionne les joueurs. Alors moi, en jeux vidéo, Mathieu l'a dit, il a raison, je n'y connais rien ou pas grand-chose, mais j'ai lu pour préparer ce petit billet que le lore, c'est ce qui fait que Legend of Zelda est une saga cosmogonique. C'est-à-dire où chaque nouvel épisode semble répondre à une question posée 20 ans plus tôt. Alors là, vous aurez le droit de me demander ce que veut dire saga cosmogonique. Et dans ce cas-là, je vous répondrai que c'est l'ensemble des récits mythiques qui décrivent la formation de l'univers et par extension l'étude de ces récits mythiques. Ce qui est dingue avec le lore dans les jeux vidéo, c'est que c'est aussi une forme d'écriture participative. Les studios laissent des zones d'ombre et les fans ajoutent leurs propres théories. Mmh. Alors d'où ça sort le lore? Eh bien de là, il va falloir sérieusement plus balèze que moi pour bien nous expliquer tout ça.
Ça tombe bien, on l'a avec nous cet après-midi, merci Cyril. Jeanne Rousseau, on a besoin effectivement de vos lumières pour bien comprendre. Et notamment, j'aimerais rebondir tout de suite sur la dimension participative. C'est vrai que
on crée plus, on fait pas une bible où on explique tout de A à Z, mais on laisse le joueur découvrir. Il y a des indices qui lui permettent d'imaginer aussi le monde lui-même.
Alors en fait, on fait une bible, mais on la transmet pas au joueur.
On la transmet pas au joueur. Vous l'avez, mais eux.
Bah nous, il faut effectivement qu'on la mette en œuvre. Quand on doit développer, créer un univers, on va effectivement développer énormément de choses. Depuis la géographie, on va passer par énormément d'étapes successives. On va effectivement s'intéresser à absolument tous les points possibles pour rendre cet univers aussi, encore une fois, aussi riche que possible, pour répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser, non seulement nous en tant que développeurs, parce qu'on va avoir besoin de pouvoir répondre à certaines questions. On va aussi lier ça à toutes les contraintes de gameplay. On oublie un peu trop souvent que dans des jeux, il y a aussi des contraintes techniques, bien sûr, mais aussi des contraintes liées à l'équipe elle-même. Est-ce qu'ils ont envie de développer plutôt un jeu qui se passe dans les étoiles ou plutôt un jeu qui se passe dans un Moyen-Âge, par exemple, extrêmement historique et réaliste? Et on va évidemment, du coup, pas développer les mêmes univers dans ces cas-là. Il y a aussi les contraintes de publication et d'édition, de public ciblé, etc. Donc, à partir de là, on prend tous ces éléments-là et on va commencer effectivement à bâtir un univers, au départ sur papier, enfin sur papier, sur ordinateur, on se comprend, mais tout ça est très virtuel, et puis on va effectivement petit à petit avoir les corps de métier qui vont nous rejoindre et qui vont utiliser tout ce qu'on a produit pour bâtir ce monde réellement en 3D par la suite, le dessiner.
J'ai l'impression qu'on construit une cathédrale. Il y a combien de personnes qui bossent sur un jeu? Sur un jeu ambitieux, un gros projet?
Sur un jeu ambitieux, des jeux comme Red Dead Redemption 2, c'est plus de 800 personnes, je crois.
Pendant des années,
c'est
du coup.
C'est plus qu'un film.
Pendant des années.
C'est plus qu'un film, en fait. Un grand jeu vidéo,
c'est des budgets, qui sont énormes, mais c'est des équipes énormes. Après, nous, on n'est pas aussi nombreux que ça dans les équipes dans lesquelles j'ai pu travailler.
Ouais, parce que vous citez Red Dead, c'est un des plus gros jeux. C'est un
oui, c'est GTA, ça. C'était vraiment un des... Allez, au moment où il est sorti, c'était vraiment un jeu monstrueux. Ouais. Et d'une taille extraordinaire.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Tout un univers imaginé spécialement pour un jeu vidéo. Zoom aujourd'hui sur les lores avec vous, Jeanne Rousseau, conceptrice justement de jeux vidéo. Ensemble, on décrypte ce qui se cache derrière le lore, le terme qui désigne donc l'univers dans et autour d'un jeu. Déjà, de quand ça date cette volonté de créer tout un univers pour un simple jeu vidéo, j'ai envie de dire?
Alors, de quand ça date, je ne saurais pas trop répondre à cette question-là. Je sais qu'à partir du moment où on a commencé à adapter des licences de jeux de rôle sur table, donc on peut penser à Donjons et Dragons pour ceux qui connaissent, Warhammer aussi, un certain nombre d'autres références comme celle-ci. Ce lore-là existait déjà, puisqu'il avait été développé pour ces jeux de rôle sur table, qui en contiennent toujours. On a ces gros livres d'univers, en général, dans lesquels on va puiser justement pour créer ces scénarios. Et en fait, quand on a commencé à créer des univers spécifiques pour le jeu vidéo, on va dire que les choses sont venues assez naturellement et qu'on s'est un peu inspiré de cette démarche-là pour pouvoir créer des univers de plus en plus profonds. Et cette idée aussi de vouloir rendre les jeux les plus immersifs possibles, d'avoir envie vraiment que les joueurs puissent se plonger dans l'univers et y croire, et que ça ait du sens, en fait. Impliquait, du coup, tout un travail qui permettait aussi de créer plusieurs jeux, parce qu'en fait, l'intérêt de créer un univers solide, c'est qu'on peut, on peut y revenir, et qu'on peut, du coup, créer facilement plusieurs occurrences dans le même monde, puisque ce monde est suffisamment, encore une fois, solide, complexe et complet, pour qu'on puisse arriver avec de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, des suites, des rebondissements, etc.
Est-ce que, justement, il y a des aspects tellement bien caché dans un lore que c'est devenu un jeu dans le jeu d'aller les chercher? Est-ce que vous avez un exemple concret de ça?
Alors là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais bien sûr, il y a toujours ce qu'on appelle des easter eggs, des choses à découvrir.
Ah, easter eggs, oui.
Des œufs de Pâques. Des petits secrets à découvrir. Alors, parfois, qui sont des moyens simplement de découvrir un trésor caché, un niveau secret et ce genre de choses, mais qui parfois sont simplement, effectivement, des petites réponses de lore, surtout quand il y a eu des jeux qui se sont suivis dans le même monde et que les joueurs avaient suggéré, on parlait tout à l'heure de la communauté, qui pouvait elle-même remplir les blancs. Il y a certains jeu où effectivement ils ont répondu d'une certaine manière à la communauté en cachant comme ça des petites réponses à droite à gauche.
Vous dites que lorsqu'un joueur commence à explorer l'environnement dans lequel il se trouve, s'il n'a pas une profondeur d'univers, il va très vite décrocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lore, en fait, c'est pour fidéliser les joueurs?
Alors, il n'est pas fait au départ pour ça. C'est vraiment juste parce que c'est une sorte de méthode de travail qui permet, encore une fois, de créer quelque chose qui soit suffisamment solide pour qu'on puisse créer... Je vais vous donner un exemple sur Gridfall, par exemple. On a 80 scénarios différents. On a une histoire principale, mais on a aussi plein de petits scénarios qui correspondent à l'histoire de tel personnage qu'on va croiser, qui correspondent à toutes les quêtes qu'on peut faire, secondaires, etc. Encore une fois, petits événements qui vont advenir ici et là. Tout ça, en fait, a besoin, pour pouvoir avoir du sens, pour pouvoir fonctionner ensemble sans avoir l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas, l'impression qu'il y a des ruptures dans ce monde-là, ont besoin effectivement, de reposer sur un univers qui soit aussi solide que possible. Et ça demande de s'interroger sur, encore une fois, on va parler de géographie, mais ça va jusqu'à la politique de ce monde-là, ça va, parce qu'on a un système dont on va avoir des factions. Quand on parle politique, tout de suite on imagine, oh là, c'est bizarre. Non, mais c'est juste, ce pays-là va être un royaume, celui-là va être une république. Ouais. Est-ce qu'ils sont amis, alliés? Non, ils se tapent dessus, etc. Ça,
vous c'est vous posez des questions qui ne sont même pas parfois résolues dans par le joueur dans le jeu. C'est annexe, mais c'est important pour la crédibilité.
Comment on réalise un... Alors, est-ce qu'on écrit déjà comme un livre ?
Oui, en quelque sorte.
Après, il y a un storyboard, comment on le met en...
Alors, le lore, moi, je l'écris sous forme de Wikipédia. Je me crée des wikis privés, privés pour l'équipe et pour moi. Et effectivement, je vais développer tout ça. Maintenant, on peut écrire aussi de manière simplement dans un point doc, si vous voulez, dans un document partagé sur Google. Enfin, le support n'est pas très important au final. Mais c'est effectivement beaucoup d'écriture classée par thème. Encore une fois, si vous avez eu un jour entre les mains ces livres d'univers de jeux de rôle, ça peut faire penser un peu à ça. On va parler de chaque pays ou lieu qu'on va pouvoir visiter, on va pouvoir...
Les personnages aussi ?
Bien sûr, les personnages... Il n'est pas de mon rôle, par exemple, de dire ça va être une grande rousse de 25 ans, mais mon rôle va plutôt être de dire c'est un personnage relativement jeune qui a expérimenté ça dans sa vie, lui est arrivé ça, elle a fait tel voyage à tel moment. En fait, je vais vraiment donner toute son histoire après et son caractère éventuellement, ce qui peut être aussi utile pour les acteurs quand on va enregistrer les voix, pour les animateurs aussi. Mais la partie visuelle, quelque part, me concerne pas. Je peux la suggérer si, par exemple, ce même personnage, dans une bataille, reçu une blessure, je peux dire « Ah, la blessure au visage, c'est important parce que c'est quelque chose qui l'a marqué. »
Mais si c'est pas du tout le personnage que vous imaginiez, peut-être que vous pouvez le dire ou pas?
Alors, il peut y avoir des discussions là-dessus, mais en général, j'ai pas besoin de le faire, en fait.
Okay.
Lui, on imagine déjà sa gueule à Noël. Quand il déballera fébrilement ce cadeau, dont les dimensions font clairement penser à une PS5. Cette fois, c'est sûr, il a été suffisamment sage et sa copine a autorisé le Père Noël à lui livrer la console de ses rêves, celle sur laquelle il va pouvoir jouer à Formula One sans aller sonner chez la Marianoche. Oh, oh ! Giorgio Armani, une certaine idée du style, un beau livre de chez ta chaîne. Ça te fait plaisir, mon chéri? Oui, oui, super, super.
C'est pas sa meilleure année, Armani, en plus.
Non, mais justement, comme un hommage. Je croise les doigts pour que les choses ne se passent pas comme ça pour vous, mon petit Quentin. En attendant, racontez-nous, les gens, est-ce qu'ils connaissent déjà ce mot, le lore?
Pas trop. C'est pour ça que je me suis rendu devant un magasin de jeux avec ce genre de vitrine, vous savez, qui empile les boîtes en carton coloré, mêlées avec de la déco de plein d'univers différents, d'ailleurs. À l'intérieur, je vois ce vendeur passionné remettre dans le bon sens le jeu du loup-garou, qui reste quand même un Mustave de notre époque. Ici, je rencontre ce groupe de copines.
Bonjour. Bonjour. Lisette, Eurydice, Rose.
Vous avez quel âge ?
19 ans. On est toutes les trois étudiantes en lettres et arts. En L2.
Je leur demande de m'expliquer ce qu'est un...
Lore. Le lore, c'est l'univers à la fois étendu et qui est restreint dans le jeu qu'on propose. Ça peut aussi être par rapport à, par exemple, des films genre Star Wars, The Seigneur des Anneaux, etc. Tout ce qu'il y a devant et derrière le jeu, en fait.
Tout ce qu'il y a devant et derrière le jeu, ou l'histoire, j'aime bien cette définition. C'est l'histoire, le récit aussi, l'œuvre, bref, tout ce qui gravite autour d'un monde fictif. Pourquoi c'est un mot de notre époque, le lore ?
Parce que je pense que le jeu vidéo, ça prend de plus en plus de place, et ça, c'est génial d'ailleurs. Je pense que le fait que la plateforme du jeu vidéo, on peut de plus en plus la développer, ça permet de créer un lore, alors qu'avant on n'avait pas forcément les capacités de créer une histoire, parce qu'il fallait que les mécaniques restent simples. Pour moi, en fait, c'est le lore, c'est à mettre en lien avec la diégèse du jeu. C'est-à-dire que quand la narrative elle évolue, le lore il va évoluer en même temps.
Mais alors, quels sont alors leurs lores préférés ?
Alors moi, mes lores préférés, c'est Undertale en tout en haut, parce que c'est vraiment mon jeu vidéo préféré. Après, tous les Zelda, j'ai beaucoup aimé Detroit Become Human récemment. Pareil, le jeu vidéo, j'ai commencé très très jeune avec des trucs très basiques comme Mario Kart, Mario Galaxy. Et en fait, le fait de pouvoir accéder à différentes consoles, j'ai une Switch, une PS4 et maintenant un PC, en fait, ça permet de voir tellement plus de jeux différents. Là, je vais faire Persona bientôt, du coup.
Ouais.
Et du coup, comme ça, je découvre de plus en plus de trucs.
Elle me parle aussi des JDR, des jeux de rôle, de l'univers de Dark Souls en RPG, où on incarne un personnage. Je comprends rien à ce jargon. Elle a aussi mentionné la diégèse, qui est l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire proposée par la fiction d'un récit ou d'un film. Mais j'apprécie, moi, la passion qui ressort de ces trois copines. Alexis, lui, a la trentaine. Sac à dos noir, écharpe bleue. Il est programmateur dans l'informatique et il me parle de notre mot du jour.
Un lore, c'est l'univers d'une œuvre de fiction. Bah le lore de moi d'Harry Potter par exemple. À l'époque, en tout cas, j'avais même acheté les hors-séries qui parlent de tous les sorts qui existent dans Harry Potter, de toutes les créatures, où tu vas aller même découvrir les autres écoles de sorcellerie qui existent dans le monde.
Il n'y a pas que Poudlard.
Il n'y a pas que Poudlard. Bah, ça, on le sait déjà dans le
4.
Dans le 4.
La coupe de feu.
On en découvre deux autres. Mais en vrai, il y en a une en Afrique, il y en a une en Amazonie.
Eh voilà. Oui, ah ouais, nous parlons. Eh oui, je le découvre aussi. Nous parlons de l'histoire, dans l'histoire, de la vie d'avant des personnages de la saga.
Oui, enfin, le fait que Dumbledore soit potentiellement gay, quoi, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça a été écrit rétroactivement, cet aspect-là, pour que ça soit plus 2020 compatible. Comme le fait que Rowling ait dit que, oui, potentiellement, Hermione était noire. Bah, en fait, pourquoi tu ne l'as pas écrit de base? C'est trop facile de le dire après coup.
Et ouais, n'est-ce pas là la limite du lore, s'adapter en fonction des époques, ou alors ce qui peut en faire sa force? Il me dit qu'un univers est encore plus complet que celui d'Harry Potter.
Je pense que les puristes diront que j'ai tort, mais Le Seigneur des Anneaux, je pense que l'univers a été poussé encore plus loin, avec une vraie langue. Quasiment toutes les races, je crois, ont une langue qui a été développée. Tolkien était un linguiste, donc voilà, ça va encore bien plus loin, même en termes de géographie. Pour le coup, c'est beaucoup plus développé.
Il y a des cartes et tout.
Ouais, il y a des cartes de ouf. Donc ouais, continuer à se plonger dans l'univers, essayer de voir des connexions qui n'ont pas été exposées dans le fil principal de l'histoire et que tu vas pouvoir découvrir sur d'autres aspects annexes.
Avant de partir, je lui demande si cette histoire de l'or, c'est pas surtout un truc de geek.
Wouf.
Oh, tu souffles.
Oui, oui, parce que je trouve ça peut-être un peu réducteur. En fait, oui, peut-être que la plupart des gens ne s'intéresseront pas à aller dans les détails de ce truc-là. C'est un truc de passionné, quoi. Pas forcément de geek, parce que geek, c'est une connotation informatique, nerd. Enfin, il y a un lore dans Balzac, quoi. Voilà, la comédie humaine, il y a tous les personnages. Bah, tout ça, c'est un ensemble qui a une cohérence. Donc les lores existaient déjà avant, en fait.
Et en le quittant, je réalise qu'on vit dans un monde où une histoire n'est jamais vraiment finie, comme si Balzac pouvait encore tisser des ponts entre ses personnages. L'histoire d'aujourd'hui, on la prolonge, on la remixe, on la reboot, on lui invente un passé, un futur, une galaxie encore plus lointaine, comme pour Star Wars. Des univers qui s'étirent à l'infini tant qu'il y a des gens pour les aimer. Et là, on les nourrit encore et encore, autant qu'on nourrit son lore. Et ça, aujourd'hui, ça vaut de l'or.
Rassurant de voir que je ne suis pas le seul à faire des jeux de mots avec l'or aujourd'hui.
Jeanne
Rousseau, est-ce qu'il y a des limites au l'or? Comme on discutait avec ce jeune homme dans la rue, on parlait de J.K. Rowling par exemple. Est-ce qu'on peut modifier un l'or en fonction de l'époque pour s'adapter?
C'est déjà arrivé en fait. Dans le jeu vidéo un peu moins, parce que le jeu vidéo n'existant pas depuis si longtemps, on s'en rend peut-être un peu moins compte, mais effectivement sur des œuvres de fiction, on peut penser au lore de Sherlock Holmes par exemple.
Ah oui.
C'est une œuvre qui a été écrite à une pleine période victorienne, ça a évolué et on voit à travers notamment toutes les remixes de séries, reboots, revisités, Whitestone devient une femme, ça se passe à l'époque contemporaine, on a à chaque fois.
C'est pas une limite ça. Est-ce que le joueur, le lecteur ou l'amateur du lore va pas se sentir trahi?
Alors c'est toujours un risque. C'est toujours un risque. Il faut justement, je pense, toujours trouver l'équilibre entre la fidélité à l'œuvre originale, respecter le canon, ça c'est très très important, et en même temps arriver avec une proposition qui va être suffisamment séduisante pour que les gens se disent ah en fait c'est une nouvelle couche de lore. C'est comme tous les reboots qu'il y a pu avoir aussi dans les Marvel. Si on pense à un univers comme ça où on a 87 versions, je dois même être en dessous du chiffre réel, de la vie de chaque super-héros avec des réinterprétations selon les différents dessinateurs, les époques aussi bien sûr, et finalement chacun adhère ou pas, va avoir ses préférés, mais ça participe de cette espèce de fourmillement qui nourrit un lore qui effectivement n'est plus, on va dire, une version uniforme d'un univers, mais qui peut avoir comme des sortes d'univers parallèles, de multivers, et donc un multilore en quelque sorte.
Le jeune homme dans le micro-trottoir parlait du fait qu'il achetait, il était fan d'Harry Potter et qu'il achetait aussi des produits dérivés. Est-ce que le lore, ça participe aussi au marketing pour les produits dérivés?
Alors c'est utilisé par le marketing, oui bien sûr. Maintenant on le fait rarement en pensant au marketing.
Ce petit truc, il va super bien marcher après en figurine.
Ça peut être quelque chose qu'on va se dire à un moment, mais souvent on est déjà assez avancé dans la création et dans la conception. Ça peut être effectivement un visuel qu'on va voir ressortir, on va se dire ça va inspirer, j'en sais rien, les cosplayers par exemple, quelque chose comme ça, c'est une super idée. Mais c'est vrai que c'est rarement, le lore encore une fois est souvent quelque chose de beaucoup plus, on part vraiment sur des racines quoi. Et donc c'est pas fait pour spécialement servir d'outil marketing. Mais par contre,
c'est le marketing qui l'utilise après.
Ça devient vraiment de l'or pour le marketing.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À quoi ça tient la réussite d'un jeu vidéo ? Qu'est-ce qui fait que la saga Legend of Zelda a rencontré un tel succès alors que le banger de la Lui Gaming Company, Legend of the Cigaloo Cup, n'a pas fonctionné ? Alors même que c'était un jeu passionnant dans lequel il fallait réussir à boire son thé dans un mug enchanté qui faisait le bruit des cigales si vous en foutiez à côté. Vraiment, personne n'a jamais pu expliquer cet échec. Pour exorciser ça, Quentin, jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui des lores les plus barrés jamais conçus, domaine dans lequel je touche ma bille, puisque j'ai moi-même créé, involontairement certes, mais quand même, un des lores les plus what the fuck de l'histoire de la radio. Oui, Jeanne, moi aussi, en l'espace de 3 ans, j'ai créé un véritable monde parallèle, à la fois terrifiant et merveilleux. Un monde où évoluent de petits personnages attachants, notamment Quentin et Pierre. Un monde dirigé d'une main de fer par Cyril, Lord Bougon, qui combat des orques wokistes avec Fiondal, sa dague sartoise. Il doit trouver des côtes de bœuf cachées dans la map pour ne pas perdre des points de vie. Bref, un lore cohérent, bien ficelé, et qui, le jour où Ubisoft se décidera à me racheter les droits, donnera sans doute un jeu vidéo absolument culte. En attendant, voici des lores beaucoup moins bien ficelés. Top, on part au Japon. Ce pays dont on pourrait dire tant de choses, mais que Pierre Courade résume ainsi, bien mieux que le Cap-Vert, nous a dit. En 2011, j'ai loupé une phrase, pas grave. Oui. En 2011, vous l'avez pas entendu du tout, c'était fluide, c'était parfaitement fluide. En 2011, le quatrième opus de la série de jeux Disaster Report, dont l'objectif est de s'échapper d'une ville détruite, voit sa sortie repoussée pour une raison bien particulière, selon vous laquelle ? Un léger problème éthique quand on s'est aperçu que le développement avait été financé par les Yakuza. Un léger accro au protocole cher aux Japonais, peuple tatillon s'il en est, puisque le jeu se moquait de l'empereur, dont la personne est sacrée. Ou parce qu'un jeu baptisé Désastre qui sort juste après le tsunami et la catastrophe de Fukushima, ça la fout mal.
Oh là là.
C'est
B.
Pour vous, c'est l'empereur qui a été atteint dans sa dignité.
I don't know.
Mais you don't know, but you answer B. So, it's not a good answer. Bonne réponse de Quentin.
Aidé par notre invité, je tiens à le dire.
Vous l'avez regardé, vous avez fait un clin d'œil.
Attendez.
Quelle indignité.
Moi, je veux bien. Pourquoi vous n'avez pas répondu C alors ?
Parce que j'ai pas voulu tricher pour une fois.
D'accord.
Elle a préféré se planter, mais au moins à la loyale. Et c'est pour ça que vous marquez le point, Manon. Bravo.
Merci, Mathieu.
Petit problème de timing pour Disaster Report, un jeu dont le pitch était précisément de survivre à un tremblement de terre. Il va donc rester gentiment dans les placards avant de sortir finalement 8 ans plus tard. Manon Quentin embarqué à présent dans la jonque du gai savoir direction la Corée. Fascinant pays où nous transporte immédiatement, comme par magie, la musique libre de droit que j'ai chasamée l'autre jour dans le salon Caramel et Amande Douce pendant que je me faisais faire le sif.
Oh.
La Corée du Sud, où Manon a laissé un souvenir.
Ah oui, vous êtes en roue libre.
Oui, possible. La Corée du Sud, où Manon a laissé un souvenir impérissable puisqu'il y a même désormais un personnage de manga, Soul Wiyoang, la reine de la liqueur. La Corée du Sud, donc, où un jeu d'arcade avec un lore assez particulier a connu quelques difficultés de commercialisation, un petit désastre industriel. C'est le fameux Bunga Bunga. Je ne plaisante pas, interdit dans plusieurs pays car...
C'est un film pornographique.
Il consistait à faire courir Silvio, petit personnage botoxé, derrière de très jeunes filles dénudées, le but étant de réussir à les attraper sans faire tomber sa perruque. Il s'agissait de mettre un doigt en plastique dans un anus en silicone pour châtier les méchants, la fameuse olive de Corée, où il s'agissait de donner des coups de pied dans un faux chien en latex et de mesurer la force de l'impact. Une borne d'arcade.
C'est.
Bah, oui, maltraitance animale, évidemment.
Pour la blague avec Berlusconi, oui.
La blague, mais qui vous dit que c'est une blague ? C'est peut-être la bonne réponse,
Quentin. Bunga Bunga ?
Oui.
Il y a eu des jeux.
En tout cas, ça paraît plus crédible que l'histoire de l'olive de Corée. Vous êtes d'accord avec moi, qui était la réponse B. Personne n'a songé à répondre à la réponse.
Non,
personne ne dirait
c'était
ça.
C'était ça ?
Qu'est-ce que vous dites ?
C'est B ? B.
Non, mais arrêtez, Mathieu, j'aime pas.
Alors, c'est vous, Manon, n'ayez pas peur.
Bah, B.
Oh oui, Manon, bravo.
Manon,
c'était la réponse B.
Ça s'indigne en régie.
Fascinante Corée. Si Quentin était né à Séoul, ce n'est pas sur Mario Kart qu'il aurait gâché ses années collège, mais en jouant à Bunga Bunga. Il s'agit du premier jeu d'arcade à simuler le Kancho, une blagounette très détente en Asie qui consiste à joindre ses index pour les enfoncer par surprise, à travers le vêtement, bien sûr, dans la région de la bouche du diable, de la victime. Ici, un garçon de l'abbé Chibrard enseignant le Kancho à Pierre Courade. Kancho qui a même sa place dans Naruto, célèbre manga Naruto, puisque c'est d'une technique ninja, le Seinen Goroshi, et qui dans la VF s'appelle, écoutez... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on a...
Il y a eu raté.
Il y a eu raté.
Ah, pas du tout. Ah oui, pardon, tout à fait. On a raison, Régis, de me rappeler à l'ordre. Et là, il faut déjà deviner le nom de cette technique.
Oui.
Vous l'entendrez après.
Ah.
Le nom de la technique, c'est le supplice du noisetier.
Ça aurait été bizarre qu'on l'entende avant.
Le tourment de l'âme brisée ou 1000 ans de souffrance.
Ah,
c'est...
1000 ans de souffrance, ça fait beaucoup pour une olive.
Et alors ?
C'est une bonne réponse de Quentin.
Oh purée
que vous dites. La preuve avec cet extrait édifiant de Naruto. Alors évidemment, c'est plus édifiant à voir qu'à entendre, puisqu'il joint le geste à la parole, mais je vais vous mimer la chose.
Naruto, sauve-toi vite ! Tu vas te faire massacrer !
Trop tard. Technique ancestrale de Taijutsu.
Une autre autre culture.
Vous venez de l'imiter.
Une autre culture. Ben, je le mime pour, oui. pour ceux qui nous suivent en vidéo oui. sur le site de France Inter. Mais oui, mais c'est, hein, là, c'est dans Naruto, ah, c'est, oui, évidemment. C'est de la fiction. Et pour terminer ce panorama du côté obscur du lore, remontons dans le temps en 1982 aux États-Unis. Cyril Lacarrière applaudissait le triomphe à Broadway de celle qui était déjà sa troisième femme, Barbara Streisand. C'était le bon temps, l'âge d'or de l'Amérique, avec ce bon président Reagan qui mettait la misère aux bolcheviques. L'heure était au patriotisme et à l'héroïsme, d'où l'idée d'un studio de jeux vidéo américain de sortir Custer's Revenge, un jeu qui a encore plus floppé que les fameuses tasses Lucy Gallou, à cause d'un lore, disons, pas politiquement correct du tout. En effet, le but du jeu était de violer une Amérindienne attachée à un poteau, de tuer tous les bisons de l'Ouest américain, ou de capturer et revendre des enfants amérindiens à l'armée américaine.
Ah. Les trois.
Ah.
Les trois.
Oh, les trois, n'y allez pas. Vous y allez trop fort.
Non, putain. Les trois.
Ah,
non.
Je valide. Le viol.
Ah, c'est une bonne réponse, le viol. C'est une bonne réponse, Manon. Oui, un accueil pas ouf pour le jeu, qui figure dans plusieurs classements comme l'un des pires de tous les temps, malgré les précautions prises dans la documentation du jeu. Dans le livret, il y avait écrit ceci. Si les enfants vous surprennent et vous posent des questions, dites-leur que Custer et la jeune fille dansent simplement. Voilà où on en était en 1982. Ah, oui. Ablation de la honte réussie, victoire de Manon. Si seulement Quentin n'avait pas triché. Un univers sur mesure pour un jeu vidéo. La conceptrice et scénariste de jeux vidéo, Jeanne Rousseau, est toujours avec nous pour explorer les lores, ces univers créés pour et autour des jeux vidéo. Jeanne, je le disais en vous présentant, vous êtes spécialiste de RPG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être les auditeurs et auditrices internes ne connaissent pas toutes cette expression RPG.
RPG, ça veut dire role playing game. C'est le mot anglais pour dire jeu de rôle, au final. Et on l'emploie, y compris en français, pour désigner tout particulièrement donc les jeux de rôle, mais en jeu vidéo, et pas ceux dont on pratique sur table avec ses petits camarades autour d'un paquet de chips.
Et c'est ces jeux-là qui se prêtent le plus à avoir un lore extrêmement développé,
oui, riche. Parce qu'en général, effectivement, c'est des univers dans lesquels on va s'immerger, dans lesquels on va pouvoir accomplir de multiples quêtes, rencontrer de multiples personnages. On peut penser à Skyrim, par exemple, qui est probablement un des exemples les plus connus aujourd'hui, de ce type d'univers, vraiment, dans lequel on va s'immerger complètement dans un monde fictif, créé pour le jeu, et qui permet de découvrir des choses, de voyager, de mener ses propres aventures, de décider si on va être un assassin, un guerrier, un magicien, ou que sais-je encore.
Est-ce que vous utilisez l'IA ?
Non.
Est-ce que
ah non.
Ça fait pas partie de ça pour développer, je sais pas, pour penser à des idées, pour
alors, se stimuler. Alors, l'IA ne pense pas.
Non, pour se stimuler peut-être.
Oui. Ouais. Non. Moi, j'utilise pas l'IA. Ça veut pas dire que ça sera jamais utilisé. Hein. J'ai pas du tout cette prétention-là. Mais moi, j'utilise pas l'IA parce que justement, je pense que le plus, ce n'est pas juste d'écrire des lignes, parce que ça, c'est effectivement l'IA fait ça très bien. Mm-hmm. Mais c'est vraiment de se servir de son cerveau pour arriver avec des concepts et nouveaux ou qui répondent en tout cas à certaines problématiques. Et ça, c'est plus de notre boulot.
Je pense toujours aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent une orientation professionnelle. Vous étiez graphiste, vous êtes devenu scénariste, enfin plus scénariste. C'est plus intéressant, vous pensez, de développer les histoires que de faire des graphismes, tout simplement ?
Non, c'est simplement que je n'étais pas très bonne graphiste.
Tout simplement, d'accord. C'est donc ça, votre petit secret, Jeanne.
Non, je faisais du graphisme pixel à une époque. Moi, quand j'ai commencé, c'était des jeux sur Game Boy Color. Donc, les graphismes ont beaucoup évolué. Et en 3D, j'y connaissais rien. Donc,
oui, votre avantage comparatif n'était pas là.
Voilà, exactement.
Manon ?
Est-ce que le lore a aussi pour vocation de tisser des liens, de créer des communautés ?
Alors, c'est souvent là aussi plutôt un effet secondaire, un petit peu comme le marketing dont on parlait tout à l'heure. C'est quand le lore est bien tissé, est riche et intéressant, ça va effectivement entraîner souvent une communauté à se créer autour de ce lore qui va, notamment, on parlait tout à l'heure de ce côté un peu puzzle, d'aller chercher les indices, de reconstituer un peu cette histoire-là. On a souvent effectivement des communautés qui se retrouvent autour de ça. Pour retrouver, ah mais moi j'ai compris ça, et toi qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as réussi à déchiffrer ce que dit tel personnage en langue elfique à tel moment, etc.
Voilà. Et vous, en tant que scénariste, quand vous voyez ça, ça vous procure quel sentiment ?
Alors moi, je me réjouis, ouais. je suis vraiment... C'est parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot, en fait. C'est très très plaisant.
Pénélope de la Péchardière, qui est notre stagiaire, c'est elle qui a proposé ce mot de lore. Faut dire aussi que ça sort un peu des jeux vidéo et des jeux de rôle. On dit par exemple, les jeunes disent, t'as pas le lore de la soirée ? Quand t'es pas allé dans une soirée,
oh la vache,
parce que t'as pas l'univers complet de l'histoire du groupe.
Effectivement, le mot a été maintenant, comme souvent d'ailleurs, quand un mot comme ça arrive et finit par être... tout le monde s'en empare et est réutilisé dans d'autres situations. Nous, on l'utilise toujours de manière, on va dire, un peu bête et méchante pour définir ce qu'on fait et puis pour où ce qu'on va pouvoir communiquer ou pas, parce qu'il y a énormément de choses aussi que le joueur ne voit pas. Il y a une somme de connaissances énormes et ce qu'on va utiliser dans le jeu, finalement, va être que la version émergée de l'iceberg. Mais après, bah, c'est comme d'ailleurs ces univers vont être réemployés, réutilisés, modifiés. On va avoir des fanfictions, des fanarts qui vont transformer complètement notre vision parfois des choses. Parfois, pas toujours bien. J'ai vu des choses que je préfère oublier avoir vues. Et bien, de la même manière, les mots aussi sont transformés et réutilisés.
Alors, vous avez des droits d'auteur sur, par exemple, la Bible d'un lore que vous déposez. Ensuite, vous n'avez pas...
Alors, les studios développement de jeux, il faut se rappeler que c'est des œuvres qui sont des œuvres qui sont développées en groupe, et donc les droits...
sont au studio.
Voilà, sont au studio.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une série. En 2016, une nouvelle série américaine au nom de Stranger Things arrive sur Netflix sans faire de bruit, pas de grand plan promo, pas de casting bankable, juste une histoire. Un petit garçon, Will Byers, disparaît mystérieusement dans une petite ville de l'Indiana, Hawkins. Au même moment, une jeune fille au crâne rasé s'échappe d'un laboratoire secret. Elle s'appelle Eleven et possède des pouvoirs psychiques. Ce qui aurait pu être qu'une énième série fantastique parmi d'autres devient un phénomène culturel mondial. Parce que Stranger Things n'est pas seulement une intrigue surnaturelle, c'est surtout une machine à nostalgie. Ses créateurs, les frères Duffer, ont voulu nous plonger dans les années 80 avec son esthétique, les vélos BMX, les talkie-walkie, les synthétiseurs, mais aussi avec la culture cinéma de l'époque, les films de Steven Spielberg, les références à Ghostbusters ou encore les musiques iconiques de ces années-là. Grâce à la série, sa saison 4, le morceau Running Up That Hill de Kate Bush a connu une seconde vie en arrivant en tête des classements de streaming mondiaux 37 ans après sa sortie. Grâce à la puissance de son univers, Stranger Things devient rapidement la série la plus puissante de Netflix. La saison 4 cumule plus de 1,3 milliard d'heures de visionnage en un mois, un record pour une série anglophone. Et puis elle a permis de découvrir une nouvelle bande de jeunes acteurs qu'on a vu grandir au fil des années, comme Millie Bobby Brown, Phoebe Waller ou Sadie Sink, des enfants d'à peine 12 ans dans la première saison qui sont maintenant de jeunes adultes de 20 ans qui tournent dans les plus grosses productions du moment. Et puis on parlait de lore pendant cette émission, Stranger Things a réussi à imposer le sien, elle a donné naissance à des images devenues cultes, les lampes qui clignotent, les lettres accrochées au mur, les portails entre les deux mondes. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait eu aucun jeu vidéo adapté de la franchise, juste un jeu publié par Netflix assez sommaire. En tout cas, la cinquième saison commence dans 2 semaines, 8 épisodes qui vont venir conclure cette série culte. Il devrait encore battre, évidemment, des records d'audience.
Merci Manon.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Fin 2013, alors que le jeu était sorti depuis seulement 3 mois, les studios Rockstar Games avaient été alertés sur le fait qu'un joueur en France avait abattu plus de 15 700 chiens, moutons et vaches dans GTA V, passant ainsi ses 12 508 heures de jeu non pas à effectuer des missions pour avancer dans le jeu, mais simplement à assassiner froidement des animaux sans défense, révélant un profil inquiétant qui avait poussé les studios à effectuer un signalement à Interpol. Ce joueur, qui a été localisé près de Lourdes, présente tous les traits d'un sociopathe autocentré, incapable d'empathie. Auriez-vous un élève qui correspond à ce signalement, avait demandé Interpol au recteur de l'Académie de Toulouse. Oh bah bien sûr, c'est Pierre Gourade. Chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, et ça sera la dernière fois que j'imite l'accent tout le temps.
Et donc le lore aujourd'hui, c'est l'univers inventé dans les jeux vidéo. Alors il faut que ces jeux soient un minimum développés. Cyril, ne cherchez pas le lore de Tetris, ça n'existe pas. En revanche, notre invitée Jeanne Rousseau, elle crée des mondes virtuels, elle développe des jeux vidéo, elle nous a expliquer que le lore, ce n'est pas l'histoire, c'est le monde autour de l'histoire, même si ce monde peut donner matière à d'autres scénarios. Il permet de rendre riche l'univers d'un jeu vidéo. Notre invité, par exemple, crée une sorte de Wikipédia privée avec son équipe pour décrire l'intégralité de l'univers du jeu, l'époque, le régime politique dans lequel évolue le héros de l'histoire, les personnages secondaires, leurs relations, les créatures imaginaires, etc. Ainsi, on peut dire que le lore existe aussi dans la fiction en général. On peut parler du lore du Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter, par exemple. Un intervenant du microtrot de Quentin parle même du lore de Balzac. En fait, le lore est devenu un élément tellement important dans les jeux vidéo, et les jeux vidéo sont devenus tellement importants dans notre culture populaire, que lore est même entré dans le langage courant. Si vous traînez avec la Gen Z, comme Quentin et moi, contrairement à Manon qui fait semblant d'être jeune, vous savez que lore est aujourd'hui synonyme de background. Pour comprendre cette dernière expression, pour comprendre vos enfants, il vaut mieux. Cette expression vaut de l'or. Voilà.
Ah oui, mais toi aussi, un jeu de mots sur l'or. Voilà, j'ai essayé. Pas un pour attraper l'autre dans cette émission. Pierre, merci, merci Pierre.
Même truc que moi en plus. Donc.
Oui, bah écoutez, c'était un hommage, Quentin.
Merci. Voilà. Je l'ai cité deux fois dans ma chronique.
Prenez-le comme ça.
Prenez-le comme ça. Vous essayez d'être jeune sans succès.
Lui, quand je l'ai informé que le thème de l'émission aujourd'hui était le lore, il m'a indiqué assez candidement qu'il était plutôt Jacques Vabre en matière de café. Preuve qu'on a vraiment le même humour. Puisque j'ai déjà fait cette vanne en début d'émission, voici Harold Barbet.
Le lore a cette capacité à transformer le sans intérêt en histoire incroyable. Ainsi, un jour, ma mère a commencé à narrer le lore familial à table. Tout commence en 1657 avec Théodore Albus Barbet. Alors que ma question de base était de savoir pourquoi on avait toujours des Monster Munch goujambon à l'apéritif. Ce que j'aime avec la notion de lore, c'est que ça peut servir d'excuse pour tout. Si cette chronique est ratée, je pourrais toujours invoquer le fait que mon lore n'était pas adapté pour écrire une chronique sur le lore. On peut justifier des trucs qui ne tiennent pas debout dans un jeu vidéo avec le lore. Par exemple, un personnage de barbare va être capable de soulever une hache de 200 kilos avec une seule main. En revanche, pour ouvrir un petit portail d'une hauteur de 1m10, il faut qu'il trouve une petite clé. Pour récupérer cette petite clé, il va devoir escalader une montagne gelée alors qu'il ne porte qu'un pauvre slip en peau de bête. Résoudre une énigme face à un magicien doté donc de pieds de 25 mètres, car ça fait 350 ans qu'il se fait yèche à attendre quelqu'un qui se présente pas. Et se battre contre un dragon à trois têtes sans que jamais, à un seul moment, il se pose la question de savoir comment cette petite clé est arrivée autour de la tête du dragon. Tout ça, aucun problème. Mais pour ouvrir ce petit portail fait de 3 ou 4 planches pourries, il a besoin de cette petite clé. Alors qu'il pourrait tout simplement exploser à coups de hache le portail, ou encore plus simple, l'enjamber. Mais non, il lui faut une petite clé. Ça n'a aucun sens, mais c'est possible grâce à son lore. Ainsi, on peut imaginer que le lore de ce barbare est probablement plus d'être l'enfant illégitime d'un frère et d'une sœur tous deux forgerons, plutôt que l'enfant d'un serrurier. Quand le barbare ouvrira le portail, il découvrira que c'est une porte vers un autre monde, dans lequel il rencontrera des individus mi-hommes, mi-langoustes qui parlent sa langue. Mais encore une fois, sans être étonné pour autant. En revanche, quand il se retrouvera face à un vieil homme en peignoir japonais qui lui dira « Présente la pierre de Minerva, barbare, je te laisserai traverser le pont. » Ah bon, bah merde, on m'avait rien dit, moi je l'ai pas, moi. Interdit, il rebroussera chemin. Alors que tout comme le portail, il aurait largement pu exploser le vieillard à coups de hache. Merci le lore de toujours nous surprendre. Et le lore n'a pas vraiment de limite. La hache du barbare a elle-même son propre lore. Forgée dans les flammes de l'enfer il y a 300 ans par un démon chien cerbère du nom de Scratus, elle a le pouvoir d'appeler la foudre. Et étant donné que le lore s'est incrusté dans nos vies, il n'est pas dingue de penser que peut-être nos objets du monde réel auront bientôt leur propre lore, comme par exemple la brosse à dents du joueur qui dirige le barbare, façonnée dans les braises ardentes d'une usine de plastique de la Ferté-Bernard par un technicien du nom de Sylvain Bourdel. Elle porte le nom de Gencif Sensible 2000. Elle a le pouvoir de retirer les petits morceaux de gras de lardon coincés entre les dents. Moi, je me sers allègrement de mon lore maintenant. Lorsque mon épouse a constaté que ses poireaux avaient été arrachés dans le potager alors que j'étais juste censé désherber le jardin, j'ai d'abord voulu accuser les enfants. Au final, je lui ai répondu que je n'avais pas forcément un lore adapté à ce genre de mission. Excuse qui ne l'a pas convaincu, puisqu'elle m'a infligé un walk of shame nu dans la rue en me flagellant avec les poireaux. Mais je ne me plains pas, car la fois où j'avais coupé ces concombres avec la tondeuse, je n'ai pas pu m'asseoir pendant 15 jours. Ça, c'est mon lore et je vous l'offre.
Une petite touche de chic pour finir. Ça fait toujours du bien. Merci Harold Barbet. On vous retrouve dans le lore de Zoom Zoom Zen dès la semaine prochaine et en tournée avec votre spectacle demain à Marseille. Et les 21 et 22, et là, visiblement, il n'y a pas de suite.
Je sais
pas.
Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence. C'était pas loin, c'était pas loin. Voilà, il fallait deviner. Merci beaucoup Jeanne Rousseau de nous avoir fait découvrir le lore. Longue vie aux jeux vidéo. Votre prochain jeu, vous pouvez pas le dire?
Non,
c'est top secret. Très bien, merci.
Il y a Grateful 2 qui va sortir bientôt, mais bon, ça fait un certain temps que j'ai fini mon travail dessus. Et puis par contre, oui, si je peux glisser juste un mot sur l'asso, très vite. On ouvre une nouvelle campagne participative pour soutenir les étudiants cette année. Et donc tous les dons sont les très bienvenus. Et si, je crois que le lien va être mis sur la page de l'émission. Et donc ce serait super parce qu'ils ont vraiment besoin de soutien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne Rousseau, d'avoir été avec nous.
Zoom Zoom Zen.